France Musique. Musicopolis.
Octobre 1825, Berlin. Au mois d'octobre 1825, la famille qui a déménagé fin juillet dans la nouvelle grande maison de la Leipziger Straße n'a pas encore pu s'installer dans les nouveaux appartements qui avaient besoin d'un sérieux coup de peinture. Ils vivent donc pour le moment dans la Gartenhaus, la maison de jardin. Alors n'imaginez pas une cabane pour ranger les outils aménagés en abri provisoire. Non, non. La Gartenhaus en question a tout de même 16 pièces et 3 cuisines. Et elle dispose surtout d'une très grande salle ouverte sur le jardin qui permet de recevoir beaucoup de monde pour des séances de musique le dimanche après-midi. Le 17 octobre 1825, c'est le jour de l'anniversaire d'Edward Ritz, ses 23 ans. Edward Ritz est violoniste, premier violon de l'orchestre de la cour. Et surtout, il est l'ami et le professeur de violon du jeune Félix Mendelssohn. Voici 5 ans qu'ils se connaissent et qu'ils font de la musique ensemble. Félix avait 11 ans, Edward 18, lorsqu'ils ont commencé à pratiquer l'art du quatuor. Et Félix a déjà composé plusieurs pièces à l'intention d'Edward. Octobre 1825, donc, Félix Mendelssohn offre en cadeau d'anniversaire à son ami et professeur de violon Edward Ritz une partition qu'il a composée tout exprès à son intention. Un octuor pour cordes, dans lequel la partie de premier violon brille tout particulièrement. Ritz se met au travail avec ses amis et quelques temps plus tard, au cours d'une des séances musicales du dimanche, on pourra entendre la première interprétation de la pièce. Faisons un rapide calcul. Le jeune compositeur qui a offert cet octuor à son professeur de violon en octobre 1825, né en 1809, a donc 16 ans. Allez, on peut dire 16 ans et demi, il est né en février. À cet âge-là, les demi-années comptent. Mais comment se peut-il qu'à 16 ans, ou même 16 ans et demi, on puisse composer une telle œuvre? La réponse est double, bien sûr. D'un côté, la part du don, de l'autre, celle du travail. La part du don ne peut pas se mesurer, ni même s'envisager ou se comprendre. Celle du travail, si. C'est en fait un énorme travail, un immense travail. Retour en arrière. « le jeune Mendelssohn a commencé ses études de musique très tôt. D'abord chez lui avec sa mère, tout comme sa sœur aînée Fanny. Puis très vite, les deux enfants ont été confiés à des professeurs spécialisés dans chaque discipline. Pour le piano, à Ludwig Berger, un pianiste distingué qui a lui-même étudié avec Clementi et qui fait travailler le répertoire d'études et de sonates de l'époque, et aussi les anciens dont Bach. Pour le violon, Félix a d'abord été confié à Henning, un violoniste de la cour, et pour l'orgue à Augustus Bach, sans rapport avec son homonyme Jean-Sébastien. Fanny et Félix doivent aussi suivre les répétitions du vendredi après-midi de la Singakademie de Berlin, l'Académie de chant, qui fait entendre les grandes œuvres sérieuses de Bach et de Handel. Et bientôt, ils vont eux aussi chanter dans le chœur. Dès 1819, les 10 ans de Félix, ils ont droit à des leçons d'écriture musicale avec Karl Zelter, compositeur et directeur de la Singakademie. Zelter a une passion pour la musique sacrée de Bach et Handel, et parmi les classiques, il chérit avant tout Haydn et Mozart. Les enfants Mendelssohn ont un programme de cours très serré avec Karl Zelter. Son enseignement s'appuie sur un ouvrage de Kirnberger, un élève de Bach. Il s'agit de réaliser des basses continues, d'harmoniser des chorales, d'écrire des exercices de contrepoint renversables, des canons et des fugues à deux et trois voix. Félix a dans son cahier de travail des pages et des pages de ces exercices. Et aussi des variations, des quatre mains pour jouer avec Fanny et des mouvements de sonate pour piano ou pour piano et violon. Non seulement les enfants Mendelssohn couvrent des pages et des pages d'exercices de contrepoint et de composition, mais ils doivent aussi pratiquer leur instrument, et même plusieurs. Félix, pour sa part, joue du piano, de l'orgue, du violon et de l'alto. Et puis bien sûr, ils reçoivent une solide éducation générale. De ce côté-là, ça avance bien aussi. À 12 ans, Félix lit César et Ovide, dans le texte bien sûr, et il étudie l'histoire, la géographie, l'arithmétique et le français. Il dessine et, en allemand cette fois, il écrit les aventures de son petit frère Paul en vers, plus précisément en hexamètre dactylique. En plus de leur éducation en musique et dans toutes les disciplines générales, les enfants Mendelssohn ont l'occasion de voyager avec leur famille. Les voyages forment la jeunesse. Soit un voyage d'études, comme à Paris en 1816, où ils vont prendre quelques leçons avec la pianiste Marie Bigot et avec le violoniste Pierre Bayot, soit voyage d'agrément, par exemple pour visiter la Suisse pendant les vacances. Pour Fanny, ce sera tout. Mais Félix, lui, a la chance de pouvoir accompagner son père à Paris, à nouveau en 1825. Là, il est reçu dans les salons où il impressionne par son jeu virtuose et par ses compositions. Il a juste 16 ans. Son père veut prendre l'avis de Luigi Cherubini, le directeur du conservatoire, pour se faire une idée des possibilités du garçon, si on le laissait aller dans la carrière musicale. Cherubini est séduit, et encore plus lorsqu'il lui donne à faire en devoir un kyrie. En quelques jours, l'adolescent rend sa copie. Cherubini ne revient pas. Cherubini est tellement bluffé par les capacités et la précocité du jeune Mendelssohn qu'il demande à son père de lui confier pour étudier avec lui au conservatoire. Mais le père refuse et ramène son fils à la maison, à Berlin. Nous sommes en 1825, c'est justement cet été que la famille déménage dans la nouvelle maison. Depuis plusieurs années, la famille Mendelssohn organise chaque dimanche des séances musicales. Au début, c'était pour que les enfants aient la possibilité de jouer en public, ce qui est très important pour les jeunes musiciens. Et puis, une fois l'habitude prise, c'est à présent le moyen de faire entendre les nouvelles compositions de Félix, qui arrivent avec régularité. Pour jouer les œuvres programmées au cours des matinées dominicales chez les Mendelssohn, bien sûr, les enfants de la maison sont réquisitionnés. Fanny et Félix au piano, ou au violon pour Félix, Paul, le plus jeune, au violoncelle, la quatrième Rebecca a une voix ravissante. Mais dès qu'il faut jouer une œuvre pour petit orchestre, il faut bien sûr davantage de musiciens. S'il n'y a pas assez avec les amis des jeunes gens et de la famille, ou les virtuoses de passage, on fait venir quelques instrumentistes de la chapelle de la cour. On ne sait pas qui a participé à la première audition de l'octuaire de Mendelssohn, en dehors de Edward Ritz, à qui l'œuvre est dédiée. Félix a souvent joué par la suite une des parties d'alto. Était-ce le cas aussi ce jour-là? Ou bien tenait-il l'une des parties de violon? Les biographes n'en soufflent mot. Le salon des Mendelssohn n'est pas seulement musical. Tous les artistes et intellectuels de Berlin ou de passage viennent y entendre de la bonne musique et aussi profiter de la conversation brillante qui s'y épanouit. On parle de littérature aussi, bien sûr, et par exemple de Goethe, que Félix et Fanny ont rencontré plusieurs fois. Bien sûr, le premier Faust, paru en 1808, fait partie des livres que tout le monde a lus. Dans l'une des dernières scènes, La nuit de Walpurgis, on trouve ces quatre vers. Traînée de nuages et voiles de brouillard s'éclaire par le haut. L'air passe dans le feuillage, le vent dans les roseaux, et tout s'évanouit. Fanny Mendelssohn raconte à propos du scherzo de l'octuor que son frère s'est inspiré de la nuit de Walpurgis de Goethe. « Félix, écrit-elle, m'a confié ce qu'il a voulu y exprimer. Le morceau se joue staccato et pianissimo. Les trémolos, les trilles, tout y est nouveau, étrange, et néanmoins si éthéré qu'il semble qu'un souffle léger vous élève dans le monde des esprits. On serait tenté soi-même d'enfourcher le manche à balai d'une sorcière pour mieux suivre dans son vol la troupe aérienne. » À la fin, le premier violon s'envole avec la légèreté d'une plume et tout s'évanouit. l'octuor offert à Eduard Ritz pour son anniversaire va être joué dans le cadre du salon familial des Mendelssohn. Mais il ne va pas recevoir d'audition publique avant 1832. Ce sera alors à Paris. À cette occasion, Félix écrira « Cet octuor doit être joué par tous les instruments dans un style orchestral. Les pianos et fortés doivent être différenciés avec précision et plus vivement accentués qu'il n'est d'usage dans les morceaux de ce caractère. » Ni dans les temps anciens, ni de nos jours, on ne trouve une perfection plus grande chez un maître aussi jeune. C'est Schumann, grand ami de Mendelssohn, qui écrit ces mots à propos de l'octuor. Et si l'on voulait aller plus loin et décrire cette perfection, on pourrait dire qu'elle est faite à la fois de jeunesse et d'expérience, de fougue et de sérieux, mêlant des éléments d'écriture sévère, comme cette fugue par laquelle commence le final, et un élan dynamique typiquement romantique. Le final de l'octuor de Mendelssohn par une bande d'amis composée de Christian Tetzlaff, Isabelle Faust, Lisa Batiashvili, Antje Weithas, violon, Rachel Roberts, Orikam, alto, Tania Tetzlaff, Kirin Virsen, violoncelle. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Charlotte Landru-Chandès et Françoise Monteil pour les recherches et le site, Pierre Monteil pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.